Bonsoir, il est 18h, l'heure de votre émission Une heure en Palestine, programmée tous les mercredis de 18 à 19h sur Radio Calaire 88.4 et animée par différentes associations de soutien à la Palestine. Ce soir, ce sont Palestine 13, la branche locale de l'association France-Palestine Solidarité et BDS Provence qui anime l'émission. Je salue mon partenaire. Bonsoir Jean-Yves.
Bonsoir Bernard.
Pour plus d'informations, vous pouvez consulter notre site internet www.assopalestine13.org. Vous pouvez également consulter nos pages Facebook, la page Palestine 13 et celle de BDS Provence. Alors, les chaînes de télévision, d'opinion et d'un tout petit peu d'information en continu ont repris leur style, le style qu'elles n'ont en fait jamais abandonné, soit faire silence sur la Palestine, soit balancer des fausses nouvelles. En veux-tu, en voilà. L'argument massu a été, pour justifier les bombardements massifs sur Gaza par Netanyahou, que le Hamas avait le 7 octobre éventré des femmes enceintes et décapité des bébés. Info reprise à l'unisson par nos chaînes mainstream, France 24 en tête, CNews, LCI, BFM et même France Info. Des infos non vérifiées, mais qu'importe, l'important est de faire le buzz. Aucune info au conditionnel, des vérités indéniables, même Joe Biden colporte cette fake news. Et patatras, la semaine dernière, Le Monde fait état d'un communiqué du cabinet de presse du gouvernement israélien qui ne sera repris par aucune chaîne d'opinion et d'un peu d'information en continu, confirmant que ces 40 bébés décapités et femmes enceintes éventrées étaient une fausse nouvelle et qu'il n'y a aucune trace de ces actes nulle part. Grâce à la chaîne d'infos en continu Le Média, nous sommes en mesure de battre en brèche cet épouvantable épisode de carambouille journalistique que nous vous ferons entendre. Mais les mêmes qui hurlaient ces fake news n'ont pas démenti leurs mensonges. Du Jadas, tous ses collègues et même une ministre, Aurore Berger, et l'inévitable Meir Habib, bulldozer sioniste plus plus, député qui confond l'Assemblée nationale française avec la Knesset, ont-ils battu les plateaux de télévision et leurs coupes pour dire l'horreur que nous ont inspiré leurs mensonges? Bien sûr que non. Ainsi va le courant de l'information, courant qui charrie des eaux très sales, qu'importe la déchéance du métier de journaliste, il n'existe pas encore, et c'est bien dommage, de carte de presse à point. La position de Biden s'est un tout petit peu raidie à l'égard de son ami Netanyahou. Est-ce l'effet d'une plus grande compréhension des horreurs produites par les bombes israéliennes à Gaza? Non, pas vraiment. Mais alors, qu'est-ce qui a infléchi sa position? Il faut savoir que deux États américains à majorité démocrate comptent une forte communauté d'origine palestinienne ou moyenne-orientale, le Michigan et le Wisconsin. État dans lequel Biden, vainqueur de justesse lors de son élection avec moins de 1%, une courte victoire que résume Eba Mohammad. Ses parents sont originaires de Cisjordanie. Je ne pourrai pas m'abstenir, mais peut-être j'écrirai mon nom sur le bulletin, car je ne veux plus soutenir quelqu'un qui ne défend pas les Palestiniens. Et elle invite les électeurs et électrices à partager cet avis. Les partages sont suffisamment nombreux pour affoler le camp démocrate. Et comme cette revue de presse consiste à combler les silences et les approximations des médias mainstream, nous allons continuer nos revues de presse sonores, mais aussi avec une info levée par Mars Actu et Disclose sur la vente indirecte d'armes à Israël par la France, dans un rôle de lanceur d'alerte qui ont contraint le ministre de la Défense à une réponse embarrassée. Dans l'article, on découvre que l'entreprise Rawlings, basée à Marseille, a livré à Israël des équipements militaires, et ce, après le début de l'offensive sur Gaza. Il s'agit de liens métalliques servant à relier entre elles les balles de fusil mitrailleur. En fait, il s'agit surtout d'une pièce essentielle qui permet non pas de tirer 10 balles à la seconde, enfin, ou à la minute, mais d'en tirer 10 fois plus. Donc, à Marseille, lors d'un mini-colloque, cette chose a été expliquée et le ministre répond penaud que ces éléments sont livrés à Israël pour qu'il en assure l'exportation. Rendez-vous compte. C'est-à-dire qu'on tourne autour du pot et on trouve une échappatoire. Mais
Oui.
avant de commencer, pardon, oui, tu voulais dire quelque chose, Jean-Yves?
Ben, je voulais juste parler de ce qui se passe avec l'Iran, puisque tu parles des journaux mainstream qui, en fait, nous racontent des blagues et qui reviennent jamais sur leurs erreurs. Et là, aujourd'hui, avec l'attaque la riposte, disons plutôt, de l'Iran à l'attaque d'Israël, on a encore un bel exemple de tout ça, quoi. Alors, tu voulais peut-être en parler?
Oui, j'allais en parler. Avant de commencer notre revue de presse, il paraît indispensable d'évoquer l'envoi par l'Iran de drones visant le territoire israélien. Cette action militaire mérite une explication. Elle est le résultat du bombardement du consulat iranien en Syrie. Un petit rappel, une ambassade correspond à l'identique du territoire national du pays qui l'a ouverte. Plusieurs pays, dont la Russie et la Chine, ont demandé aux Nations Unies une condamnation de cette attaque. Mais les États-Unis, la France et le Royaume-Uni y ont mis leur veto. Voilà, alors le veto, c'est tu mets ton veto, moi je mets le mien, et voilà,
Oui.
il n'y a rien qui avance. Dans un esprit vengeur, Téhéran a décidé d'intervenir. Nous constatons alors que les USA, la Grande-Bretagne, la France et même la petite Jordanie ont mis leur défense aérienne à disposition pour protéger Israël. Alors que lorsqu'Israël tapisse Gaza de bombes, ces mêmes pays regardent ailleurs. Toujours le deux poids deux mesures de puissance impérialiste dans l'âme, le trio USA, Grande-Bretagne, France. Enfin, pourquoi l'Iran sert paradoxalement Israël en agissant de la sorte? Parce que l'Iran remet Israël en position de victime pour ceux et celles qui sont très mal informés. Voilà, alors je crois, Jean-Yves, que ça, c'est très important pour toi, hein, le fait que Israël, peut de nouveau se ranger du côté des victimes.
Oui, du coup, avec cette attaque, enfin, ce qu'ils qualifient d'attaque, qui n'est en fait qu'une riposte à une attaque qu'ils ont faite précédemment, effectivement, ils se revictimisent, mais on sait que c'est dans leur habitude. Quand il y a eu l'attaque du Hamas le 7 octobre, ils ont dit, mais c'est une nouvelle Shoah, c'est l'Holocauste qui recommence. Le Hamas veut éliminer tous les Juifs, etc., alors qu'il s'agissait en fait d'une attaque contre des Israéliens et pas contre des Juifs. Et ça, il faudrait le répéter chaque fois parce que c'est un mensonge honteux. J'ai entendu l'autre jour un médecin, Pascal André, qui revenait de Gaza. Il était interrogé sur France 5, je crois, ou une chaîne comme ça. Et bon, entre autres horreurs dont il a parlé, il a expliqué qu'il avait fait des interviews de tout un tas de Palestiniens dans Gaza, et une soixantaine, et il dit, mais à aucun moment je n'ai entendu un discours de haine contre des Juifs ou contre des Israéliens. Oui, les gens, ils disent, mais on veut vivre normalement, mais il n'y a pas de haine, alors que franchement, vu ce qu'ils vivent, on pourrait comprendre. Et le journaliste, ce connard-là, il tout étonné, mais il n'y a pas de haine du tout, il n'y a pas de discours de haine là-bas, mais il était tout étonné de ça. Donc voilà comment se passe l'information chez nous, et bon, en Allemagne, je crois que c'est pire encore, mais bon, voilà.
Donc, alors, je fais un petit détail là, c'est que Pascal André, je crois, c'est ça, hein, Pascal
Oui,
André, j'espère,
oui.
on l'entendra peut-être tout à l'heure, si on a le temps, parce
Oui.
qu'on a un long programme. Et puis surtout, ce que tu dis sur la haine supposée des Palestiniens, on écoutera quand même Pierre Stamboul refaire un petit peu une mise au point sur l'antisémitisme et l'antisionisme, qui me semble nécessaire. Voilà. Donc, alors, on va commencer cette revue de presse sonore par la diffusion d'un enregistrement qui vient du Média sur la séquence de la fameuse séquence des 40 bébés décapités, dont nous savons aujourd'hui qu'elle était, dès le départ, une fake news.
Alors, qui n'a pas en tête l'histoire des 40 bébés décapités à Kfar Aza? Eh bien, spoil, cette information a été démentie. Selon une enquête Le Monde, le bureau de presse du gouvernement israélien reconnaît que ces décapitations de 40 bébés n'ont jamais eu lieu. Alors, pour vous rafraîchir la mémoire, le mardi 10 octobre 2023, 3 jours après l'offensive du Hamas, la journaliste de I24, Nicole Zedek, a indiqué que 40 bébés ont été décapités à Kfar Aza, en Israël. Elle fait état de cette découverte dans le kibboutz libérée par l'armée israélienne. Dans un premier temps, elle a assuré les avoir vus. Puis, dans un second temps, cette information lui a été donnée par un commandant israélien. Dans un troisième temps, il s'est lui-même défaussé en disant que c'était un soldat sur place qui avait vu ses 40 bébés. Ils auraient été donc soit décapités, soit mutilés par les combattants du Hamas. Elle écrit sur X, son tweet fait plus de 7 millions de vues et tout de suite après, elle le supprime. Donc la rumeur a été lancée, ces informations ont été ensuite reprises sans vérification par les médias mainstream qui n'ont pas hésité à buzzer sur cette histoire, d'autant plus que celle-ci ne figure dans aucune dépêche des agences de presse présentes sur place. Beaucoup de conditionnels et des faits non avérés. Pourtant en France, les médias n'ont pas hésité à relayer l'info.
Donc c'est un plan média, hein, vraiment organisé par Tsahal, par l'armée israélienne, pour montrer l'indicible. Écoutez, je vais vous dire ce qu'ont dit les reporters qui ont vu les images.
Les enfants et même les bébés ont été tués également. Et de quelle manière?
Des femmes, des enfants, 40 bébés décapités.
Des femmes, des enfants, des bébés décapités.
Elle a reçu une balle dans le dos et elle protégeait son bébé. Un petit bébé d'un ou deux ans. Un bébé qui a été décapité.
Des bébés décapités, vous nous confirmez cette information? Et de nombreux bébés décapités?
Oui, c'est une information que j'ai énormément de mal à confirmer, mais elle est malheureusement vraie. Des maisons brûlées, des bébés décapités.
On parle d'enfants, de femmes à qui on a coupé la tête.
Des bébés dont la tête a été décapitée.
Ils utilisent tous la voix affirmative, 40 bébés tués, certains avec la tête coupée. L'information a été reprise sur le compte officiel d'Israël et soutenue par le porte-parole de l'armée israélienne. D'ailleurs, le chiffre émane d'une seule source et n'a jamais été officialisé. La journaliste de I24 finit elle-même par adoucir sa version des faits. Le lendemain matin, le journaliste Samuel Fauré, travaillant pour Le Monde, était sur place. Il a publié sur X une mise au point sur le sujet. Il a expliqué qu'on ne pouvait pas vérifier si c'est d'équipe décapitation d'enfants était réelle ou non. L'histoire est reprise jusque dans les classes politiques internationales. Le même jour, Joe Biden adhérait à ce discours, adhérait à cette fake news lors d'un discours.
Ça fait longtemps que je fais cela, mais je n'avais jamais pensé que je verrais des photos de terroristes décapitant des enfants. Je n'ai jamais pensé que je verrai cela. Mais il y a des pays dans la région qui essaient d'apporter une aide, y compris parmi les nations arabes.
Ces photos n'existent pas. La Maison-Blanche avait ensuite précisé qu'il basait ses déclarations sur les informations israéliennes sans les avoir indépendamment vérifiées. La rumeur continue donc de se propager. La rumeur est au centre du cirque médiatique. C'est une information dévoyée ou provisoire, mensongère ou calomnieuse, et on finit par s'y perdre. La preuve en image avec Aurore Berger qui se fait même la porte-parole sur CNews du gouvernement israélien.
On a même hier le porte-parole de l'armée israélienne qui s'est rendu sur place et qui l'a dit, j'ai ces propos-là, dit « je viens de voir moi-même, je tenais à voir moi-même des personnes décapitées, également des bébés. Ils m'ont dit avoir découvert le corps d'un bébé, il a été brûlé, vivant je crois, dans un four. »
Ou encore Meir Habib qui surenchérit dans le pathos avec des informations toutes fausses.
Moi je ne veux pas être scabreux parce que... Mais Daesh, à la limite, c'était moins que ça. C'est pire que l'État islamique. Ils ont massacré, aujourd'hui on a trouvé un charnier, 40 bébés brûlés, martyrisés, et après ils ont coupé les têtes. Mais je pense à ces enfants, sans leur mère, sans leur père. C'est pire que les nazis, c'est pire que tout.
Alors maintenant, Jean-Yves, tu nous proposes un bilan des proportions des morts et blessés côté israélien et côté palestinien, ainsi que les dégâts matériels. Ce décompte qui pourrait paraître scabreux ne l'est pas. Il est là pour montrer l'extrême dissymétrie des rapports de force et surtout l'immense violence d'un pays surarmé. Ensuite, tu évoqueras la réponse de Gideon Levy d'Haaretz, qui semble en douter de la question suivante. Après 150 jours de mort et de destruction à Gaza, Israël est-il plus fort et plus sûr? Voilà, à toi.
Voilà, alors depuis le 7 octobre 2023, on a 33 000, alors ça c'était donc fin de semaine dernière, hein, 33 207 Palestiniens qui ont été tués, donc c'est des chiffres du ministère de la Santé de Gaza. Il y a eu 382 morts en Cisjordanie et 1000 en Israël, donc des personnes impliquées dans l'attaque du 7 octobre, d'après les autorités israéliennes.
Oui, mais est-ce qu'on peut considérer que les morts israéliens sont des morts militaires?
En fait, il y a une partie qui sont des morts militaires. Après, on peut estimer aussi que des colons, ce sont des militaires, puisque tous les colons, au moins les hommes, hein, je parle des hommes, bien sûr, en âge de se battre, sont armés. Et ce sont des soldats, des réservistes.
Oui. Voilà. À l'exception des morts du 7 octobre, qui sont des victimes totalement innocentes, les autres sont des gens qui étaient les armes à la main.
Ah ben oui, enfin, voilà. Armes à la main ou à l'épaule. Oui. Après, non, mais... on ne saura jamais exactement tant que Israël n'accepte pas une enquête internationale. Et oui. Aujourd'hui, on a pour seule information les informations qui viennent d'Israël. Après, les journalistes ils mettent en doute les chiffres du ministère de la Santé à Gaza en disant que c'est le Hamas. Mais bon, le ministère israélien de l'armée israélienne, elle n'a jamais donné des chiffres exacts. Elle a même cherché à les exagérer, puisqu'au début, on parlait de 1200 morts, alors que, en fait, ce chiffre a été réduit à 1000 et quelques. Ce qui enlève rien au problème. Et oui, parce qu'au début, il parlait de 1200 morts et qui étaient signalés tués. Et cette estimation, qui inclut les ressortissants étrangers, a été modifiée par les sources israéliennes. Donc ça, c'était 33 000 contre 1000. Alors aujourd'hui, il y a eu des soldats israéliens tués à Gaza. D'après les chiffres que j'ai vus, il semblerait qu'il y en ait plus de 500. Et on ne parle pas des blessés. Hein. Dommage, plus de 70 000 logements ont été détruits à Gaza. Alors, au niveau des blessés, donc, on parle de 75 900, donc 76 000 pratiquement blessés, d'après le ministère de la Santé de Gaza. Et les autorités israéliennes parlent de 5 430 Israéliens blessés. Et donc, il y a en plus les déplacés, et à Gaza, donc, qui comptait 2,5 millions de personnes, il y en a 1,7 million qui ont été déplacés, c'est-à-dire 70 ou 80% de la population, selon une estimation de l'ONU. De toute façon, quand on voit l'intensité des destructions à Gaza, c'est une punition de plus hein, par rapport
oui, à... Oui, mais avec une idée quand même qui est toujours présente pour moi, c'est que s'ils pouvaient les pousser...
oui, à la mer en Égypte.
Oui, exactement. Non, mais si imagine que l'Égypte se montre généreuse, ou je ne sais pas quel est le mot, et ouvre sa frontière... Ils peuvent, eux, se dire, c'est l'occasion, on fait une Nakba tranquille, la suite, et on fout tout le monde dehors.
Mais bon, c'est difficile de savoir quelle est l'intention d'Israël dans ce truc-là. Mais quand on voit la haine que les soldats israéliens manifestent à l'égard des Gazaouis, qui tirent sur des femmes, des enfants, en se disant de toute façon, ça fera un terroriste de moins, les photos qu'ils prennent, les destructions, ils détruisent des mosquées, des églises, juste comme ça, pour le plaisir, il n'y a personne, il n'y a pas de. Le Hamas n'est pas là, etc. C'est de la haine à l'état pur. C'est incompréhensible pour une société qui se dit quand même religieuse.
C'est quand même un système d'éducation.
Oui.
Ça veut dire que depuis l'école primaire, peut-être avant, on a appris aux Israéliens
à haïr les Arabes.
Oui, à dire que de l'autre côté, il y avait des gens qui étaient tous des terroristes et que même ceux qui vivaient avec eux, et ouais. je crains beaucoup, moi, que l'irréparable soit commis aussi par rapport aux Palestiniens d'Israël, c'est-à-dire ouais. pour arriver à rétablir un minimum de confiance entre ce qu'on pourrait appeler les deux communautés, ça va être très très compliqué.
Oui, tout à fait. Bon, tu parlais de Gideon Levy, donc, qui écrit à Haaretz, le principal journal d'opposition et d'information réelle en Israël, qui sort à la limite plus d'informations que celles que l'on peut entendre dans nos journaux à nous. Hein. Et donc, il se pose la question aujourd'hui, est-ce qu'Israël est sûr pour les Israéliens? Parce qu'il ne faut quand même pas oublier qu'Israël a été créé, enfin, le sionisme a été développé par Herzl en se disant les Juifs ne sont en sécurité nulle part. Pour qu'ils soient plus en sécurité, il leur faut un État à eux. Il n'y a que comme ça qu'ils arriveront à obtenir une sécurité accrue. Et donc, Gideon Levy se pose la question, on a passé le cap des 150 jours de guerre contre le Hamas, et il faut se poser la question, est-ce qu'aujourd'hui, on est mieux, notre situation est-elle préférable à celle qui prévalait avant le 7 octobre? Est-ce que nous sommes plus forts, plus sûrs? Est-ce que notre force de dissuasion est plus grande? Sommes-nous plus respectés, plus fiers de nous, plus unis? Est-ce que nous sommes dans une situation meilleure, de quelque manière que ce soit? Et sa réponse, elle est pour lui évidente, et il dit ce qui est incroyable, c'est que la réponse à toutes ces questions est non, sans aucun équivoque. Donc 150 jours cruels et difficiles, pour lui, ils n'ont rien apporté à Israël et ne lui apporteront rien, ni à court ni à long terme. Au contraire, le Hamas en est sorti renforcé, non pas au niveau effectif, parce que des milliers de combattants ont été tués, mais il est devenu un héros dans le monde arabe. La plupart des Israéliens, malgré cela, veulent au moins 150 jours de plus de la même situation. Il n'y a eu aucune opposition publique à la guerre, même après 5 mois de mort et de destruction à une échelle sans précédent, alors qu'Israël est devenu un paria, haï dans le monde entier, au moins dans les États du Sud, comme on dit, et pas dans les États occidentaux.
Oui, mais quand même, en Espagne.
Oui, mais en fait, c'est pas une généralité, non, c'est pas... quoi, voilà.
Oui, mais il y a quand même quelques petites difficultés pour parler d'une seule voix.
Voilà, mais quand on dit Israël est un paria haï, c'est vraiment surtout les pays du Sud qui se
oui, sont ça plus va, proches. Ça... Ça va du Brésil à l'Indonésie.
Oui, tout à fait.
Ça fait du monde quand même.
Donc, il n'y a pas un seul domaine dans lequel le pays se porte mieux après ces derniers sombres mois. Israël est aujourd'hui beaucoup moins en sécurité qu'il ne l'était avant la guerre. Et donc, cet article a été écrit avant la riposte de l'Iran aussi. Hein. Donc, il fait face au risque d'une escalade régionale. Il la provoque en plus, à des sanctions mondiales et à la perte du soutien des États-Unis, que l'Iran a réussi à lui redonner. Il est moins démocratique parce que les dommages causés par la guerre aux institutions démocratiques israéliennes sont encore plus importants que ceux causés par le coup d'État judiciaire. Et ces dommages demeureront après le retrait de Gaza des forces de défense israéliennes. Par rapport à son statut sur le plan international, Israël n'a jamais été aussi isolé. Les liens quasiment garantis avec les États-Unis sont détériorés à un point tel que nous n'avions jamais vu avant. Le bilan quotidien des soldats tombés au combat, le fait que la plupart des otages n'ont pas encore été libérés, des dizaines de milliers d'Israéliens ont été déplacés à l'intérieur du pays, la moitié du pays est une zone dangereuse. La Cisjordanie, elle risque d'exploser aussi, et rien ne peut cacher la haine sans rivage que nous avons réussi à semer à Gaza, en Cisjordanie et dans le monde arabe. Et nous n'avons encore rien dit du prix exorbitant, bouleversant pour Gaza et ses habitants qui, dans les ténèbres de la guerre, subissent plus de violence que jamais. La plupart des Israéliens devraient s'interroger, hormis la satisfaction que procure la destruction de Gaza. C'est quand même regrettable qu'on parle de satisfaction à propos d'une destruction comme ça. Qu'avons-nous obtenu d'autre que cette guerre? Regardez les résultats, les choses ne feront qu'empirer. Est-ce vraiment ce que vous voulez? Voilà, donc, ce que dit Gideon Levy. Et effectivement, à partir du moment où le Hamas a réussi à percer la frontière de Gaza avec Israël, Israël n'est plus en sécurité nulle part.
Alors maintenant, nous allons, pour se référer à ce que tu as dit tout à l'heure sur la haine,
oui,
la haine à l'égard des Israéliens, je crois qu'il faut toujours faire le point sur cette question. Peut-on être antisémite? Non, l'antisémitisme est un délit. Mais si on dit que l'antisionisme est un autre antisémitisme ou une variante, là, évidemment, on ouvre la voie à tous antisémites, quoi. Il n'y a plus de
justice.
Il n'y a plus de justice. Oui, il n'y a plus rien. Donc, on va écouter Pierre Stamboul qui répond à cette question sur la terrasse du Mucem, s'il vous plaît, interviewé par Thomas Legrand dans son émission hebdomadaire sur sa chronique hebdomadaire sur France Inter.
Enquête de politique. Émission s'appelle Enquête de politique.
Bon, voilà, sur son émission Enquête de politique.
Nous allons maintenant à la rencontre à Marseille de Pierre Stamboul, professeur de mathématiques en retraite et militant de l'Union juive pour la paix, un mouvement proche de l'extrême gauche, ouvertement pro-palestinien. Pierre Stamboul tentait de se rendre à Gaza pour une mission humanitaire quand l'attaque du 7 octobre a eu lieu. Pierre Stamboul, antisioniste et juif, aux propos radicaux, rencontre à Marseille sur la terrasse du Mucem.
Je suis antisioniste parce que juif. Nous sommes les héritiers d'une époque où la grande majorité des juifs considéraient que leur émancipation comme minorité opprimée passait par l'émancipation de l'humanité. Pour nous, le sionisme, c'est un crime contre les Palestiniens, mais pour nous, juifs, c'est une injure à notre mémoire, à notre histoire et à notre identité.
Comment vous vous sentez dans le débat tel qu'il est après le 7 octobre?
Écoutez, je milite pour les droits du peuple palestinien depuis plus de 20 ans. J'ai fait de nombreux séjours en Palestine. Je suis allé deux fois à Gaza en 2013 et en 2016. Notre association, l'Union juive française pour la paix, nous sommes en solidarité avec les paysans du sud-est de la bande de Gaza depuis 2016. Les gens qui vont sur notre site pourront voir les réalisations impressionnantes que les paysans ont réalisées en solidarité avec nous et en portant partout le logo, le badge, le drapeau UJFP, donc à Gaza, Union juive française pour la paix. Nous montrons ce que c'est qu'une solidarité contre le communautarisme, contre le tribalisme. Et aujourd'hui, nos correspondants à Gaza sont réfugiés sous la tente. Ils ont tous de très nombreux morts dans leur famille et ils essaient, avec l'argent qu'on arrive à leur faire parvenir, de sauver la population gazaoui de la famine et des épidémies. En tant que juif, je dis: ce qui se passe là-bas, c'est un génocide, et je sais ce que c'est qu'un génocide. Ma famille maternelle a été exterminée, mon père était dans le groupe Manoukian. Souvent, les gens ont dans l'idée que génocide, c'est extermination. Pas seulement. Il faut regarder la définition internationale, mais affamer toute une population, déplacer 90% des gens, tirer sur les hôpitaux, les ambulances, le personnel de l'UNRWA, les écoles, ça s'appelle un génocide. C'est dans la définition internationale de génocide. Et je dis, en tant que juif, nier cette réalité-là, c'est du négationnisme. Et j'emploie volontairement ce mot qui est extrêmement choquant chez les juifs.
Oui, vous avez conscience que ce que vous dites là est très choquant. Mais c'est de la provocation.
Non, c'est pas de la provocation du tout. C'est ce que je pense très profondément. C'est du négationnisme de nier la réalité de ce qui se passe à Gaza. En proportion, il y a plus de morts à Gaza en 3 mois qu'en France pendant toute la Deuxième Guerre mondiale. Je reprendrai les paroles de Michel Warchavski, anticolonialiste israélien. Gaza, c'était comme une cocotte minute, ça ne pouvait qu'exploser. Et il rappelle que, puisqu'on parle de la violence du 7 octobre, que avant le 7 octobre, en 2018-2019, il y a les marches du retour à Gaza, des manifestants pacifiques. Le bilan, c'est 350 morts et 10 000 estropiés, jambisés, au vu et au su de tout le monde, avec des soldats qui les canardaient. Donc on ne me dise pas que c'est parce qu'il y a eu la violence. Quand nous nous disons que le sionisme n'est pas seulement un crime contre les Palestiniens, qu'il est suicidaire pour les Juifs, il l'est complètement. Le 7 octobre l'a prouvé. Comment on peut imaginer qu'on va enfermer des millions de personnes, qu'entre mer Méditerranée et Jourdain, il y a 7 millions de Juifs israéliens, il y a 7 millions de Palestiniens, les uns ont tout, les autres ont été fragmentés et n'ont rien, et que ça va tenir? Ça, c'est suicidaire. Le long de cette fameuse barrière qui a été cassée le 7 octobre, il y a des tortueuses tous les 250 mètres. Un mélange de Moyen-Âge et de science-fiction. Ça fait 20 mètres de haut. En haut, il y a une espèce de champignon. Il n'y a personne dans la tour. Elle est télécommandée et de temps en temps, elle s'ouvre et elle canarde. Le long de cette frontière, à propos des fameux kibbutz progressistes qu'il y avait autour, il y a 150 puits. L'eau de la nappe phréatique qui vient de Cisjordanie est pompée. 97% de l'eau à Gaza est inconsommable. La nature a horreur du vide. La nappe phréatique est envahie par l'eau de mer. Et j'étais sur ces terres. De l'autre côté, on voit ces fameux kibbutz, il y a les piscines et l'arrosage automatique. C'est ça une situation coloniale et c'est ça qui ne pouvait pas durer.
Comment vous luttez, vous, en tant que juif français, contre l'antisémitisme ?
Écoutez, déjà, quand à Gaza, on se présente partout comme Union juive française pour la paix, quand et partout on est reçu, que ce soit les associations, les partis, tout le monde, nous sommes contre l'occupation, nous n'avons rien contre les Juifs. Quand les paysans de Gaza, de leur propre chef, on leur a rien demandé, mettent sur le château d'eau qui a été construit avec l'argent de la solidarité, UJFP, quand il y a une voiture qui sillonne Gaza avec un agronome pour donner des conseils aux paysans et qui est marquée en énorme Union juive française pour la paix, on fait notre boulot. Quand on fait des conférences dans les quartiers, je vais en faire une la semaine prochaine, mais j'en fais souvent.
Vous êtes à Marseille, vous allez dans les quartiers nord de Marseille?
Mais je suis invité à Marseille, mais je suis invité la semaine prochaine à Perpignan, et j'ai été invité dans toute la France. Quand on va dans les quartiers, quand on rencontre, parce que on est sans arrêt avec eux dans les manifestations, des musulmans, ils nous disent, heureusement que vous êtes là, vous arrivez à dire ce que nous, on n'a pas le droit de dire, et ils nous disent, on ne savait pas, pour certains, ils nous disent, on ne savait pas qu'il y avait des juifs comme vous. C'est-à-dire que nous, on défend le fait que juifs sionistes israéliens, ce n'est pas pareil. On rappelle le fait qu'en Palestine, avant l'arrivée du sionisme, la majorité musulmane vivait sans aucun problème avec les minorités chrétiennes et juives, qu'ils étaient ensemble dans le conseil municipal de Jérusalem, qu'ils ont toujours vécu ensemble, que le premier assassinat politique que les sionistes ont fait contre un juif, c'était Jacob de Haan en 1924, parce qu'il était contre la déclaration Balfour et parce qu'il disait « on a toujours vécu avec nos voisins et on va continuer ». Donc voilà, lutter contre l'antisémitisme. Aujourd'hui, on est obligé, de mon point de vue, quand on lutte contre l'antisémitisme, de se prononcer sur cette guerre-là. Parce qu'on ne peut pas d'un côté dire le racisme c'est dégueulasse, et en même temps soutenir un régime raciste et suprémaciste. Le régime israélien, il est raciste, il est suprémaciste, il est dirigé par des gens d'extrême droite. L'ancien premier ministre Naftali Bennett disait « j'ai tué beaucoup d'Arabes dans ma vie, je ne vois pas où est le problème ». Yoav Gallant, il vient de dire que les Palestiniens étaient des animaux humains. Tout ça, pour nous, juifs, ça nous évoque ce qu'on dit aujourd'hui des Palestiniens ou ce qu'on dit aujourd'hui des Arabes et des musulmans en général, ça m'évoque ce qu'on disait des juifs dans les années 30. Donc nous, à l'Union juive française pour la paix, on considère que si l'antisémitisme a été un racisme à part au moment de l'extermination, il n'est plus, aujourd'hui, il n'est pas un racisme à part. On ne peut pas dire aujourd'hui en France qu'il y a plus de racisme contre les juifs qu'il n'y en a contre les noirs, les arabes, les roms ou les musulmans. Quand un juif cherche un logement ou un travail, il subira infiniment moins de discrimination que n'en subira un noir ou un arabe. C'est évident aujourd'hui. Et donc c'est bien sûr tous ensemble, au nom de l'égalité des droits, qu'on doit lutter contre le racisme partout où il se trouve et quel qu'il soit. Mais c'est pas en faisant de l'antisémitisme un racisme à part, et c'est surtout pas en embrigadant l'antisémitisme derrière la défense d'un régime raciste.
Oui. Jean-Yves, je crois que tu as déniché une information qui bat en brèche les dénégations de la Commission de l'Union européenne qui finance une firme d'armement au rôle incontournable dans le génocide de Gaza. Peux-tu nous en dire plus?
Oui, ben en fait, la conclusion de ce qu'on va voir, c'est que pendant la guerre, les affaires continuent. On pourrait dire ça comme ça. Et donc, c'est un journaliste, David Cronin, qui écrit pour un site qui s'appelle Charleroi pour la Palestine. C'est un site belge. Charleroi pour la Palestine est très, très intéressant dans les informations qu'il donne et les analyses qu'il donne sur Israël. Donc, il y a une firme qui s'appelle Israel Aerospace Industries, dont Israël, l'État lui-même, est propriétaire. Elle fait partie du consortium que l'on retrouve derrière un projet de recherche aéronautique qui va débuter cette année 2024 pour se terminer en décembre 2027. Le projet s'appelle Alright 2T et il a été officiellement autorisé par la Commission européenne à la mi-décembre. Donc, alors que Israël avait déjà commencé son agression meurtrière contre Gaza. Cette firme IAI participe directement à la guerre. Sur son site internet, elle fait remarquer qu'elle est complètement intégrée aux forces navales, aériennes, spatiales et terrestres d'Israël. Elle se vante de ce que ces technologies sophistiquées ont joué un rôle incontournable dans la guerre actuelle. Donc, elle est responsable de crimes de guerre. Hein. L'armée israélienne a reçu le soutien indéfectible d'IAI. Elle peut compter sur la firme pour son aide technique permanente et immédiate, la disponibilité de ses équipes de soutien et d'ingénierie. Et elle a même publié une vidéo montrant comment son personnel fait fonctionner les drones destinés à l'armée israélienne. On est toujours dans la logique d'Israël au niveau des ventes d'armes. C'est la stratégie consiste à dire vous pouvez nous acheter nos armes parce qu'elles ont été testées en réel. Sur qui, bien entendu? Sur les Palestiniens, éventuellement sur des dirigeants iraniens.
Et je crois, voilà. J'ai cru, moi, que pour les Jeux Olympiques, la surveillance des populations. Serait demandé aux Chinois et j'ai constaté qu'il y avait aussi
des Israéliens
sur le coup. Donc, on sait bien, quand on va en Palestine, on voit un gros ballon qui est en l'air et qui est équipé de caméras de surveillance. Oui. Ça veut dire que je suis partout.
Oui.
Ça correspond à ça. Alors, on arrive un petit peu à un moment où il faudrait faire la pause musicale. Et j'ai découvert un musicien que je ne connaissais pas du tout, qui s'appelle Marwan Abdelhamid, mais plus connu sous le nom chez nous de Saint-Levant. Alors, est-ce que ça a un rapport avec ses origines palestiniennes, qui sont du Levant ? Et les influences musicales et artistiques palestiniennes et algériennes représentent les deux identités de cet artiste. Son nouvel album est aussi l'occasion de retracer sa carrière musicale et l'engagement politique du rappeur palestinien.
انتي مين؟ راح احكي لكم عن قوتهم وكيف احفادهم صامدين.
Yeah. الخربة الحزينة سلم لي عريحة وسلم عالديرة يا طير الطير الأرض الكريمة بيخدوش اللي فينا سلم لي عريحة وسلم عالديرة يا طير الطير بين الشط والرمال بداية حياتي أحلق يا وطن فرحة ومآسي أحلق وطن الغالي فلسطين حبيبة دناتي
Family can stay alive. Imagine trying to fly with no wings, but I promise you the caged birds sing in the wintertime. Heavy nights, big dreams, praying that we make it to 16. And even though I travel the world, مش ملاقي زي فلسطين.
آه فات وفات وفات الوقت عمري راح سنين ومناسي هذه عوامر الخطر مجروح. آه فات وفات وفات الوقت عمري راح سنين ومناسي هذه عوام والخطر مجروح.
Maintenant aussi écouter un bobino très très intéressant pour deux raisons. La première, c'est qu'il met en scène Meir Habib, un autre personnage qui est avec lui, dont j'ai oublié le nom, et puis le journaliste de LCP qui les accueille, les laisse s'empoigner avec Béli Gnabi, qui est un politologue d'origine, je pense, tunisienne. Et donc, ce qui se passe sur le plateau, c'est qu'à propos de la Judée-Samarie, qui est la Cisjordanie pour nous, il y a une petite empoignade, mais le journaliste reste tranquille, il reste de tout à fait extérieur à ce qui se passe. Et c'est Béli Gnabi qui est obligé et contraint de mettre de l'ordre en disant aux deux meilleurs Habib et l'autre que l'évocation biblique, évidemment, n'a rien à voir avec le droit international. Donc je vous propose d'écouter ça. C'est un peu embrouillé, mais c'est quand même assez symptomatique des méthodes du meilleur Habib qu'on connaît par cœur et du retrait du journaliste surtout qui regarde ça comme s'il était en train de regarder un match de quelque chose, une bagarre.
Des experts qui savent de quoi ils parlent.
Oui, alors on en a un ici qu'on chouchoute un peu, qui est un abonné des tops, c'est Béli Gnabi, donc de chronique.fr, qui ici se retrouve face à Meir Habib. Alors c'est très étonnant parce que Meir Habib là tente une espèce de carte. On le connaît complètement vociférant de manière régulière, avec des mensonges, avec de l'outrance. Et là, il est tout à fait apaisé, sauf que il va tenir un discours pour justifier ce qui se passe au Moyen-Orient, en s'appuyant uniquement sur des textes bibliques, ce qui est complètement hallucinant, sans que le journaliste ne réagisse. Mais par contre, lui, Béli Gnabi, très calmement, va tenter de recadrer le débat. Je vous laisse écouter.
On ne peut pas isoler le problème des implantations et dire que ça, c'est le mal absolu.
Non, des implantations. Ah. Des implantations, monsieur.
Je parle avec le langage du droit international. Je parle avec le langage du droit international.
Historiquement, monsieur, la Judée, la Samarie.
La Judée, la Samarie, pour imaginer que...
Vous parlez avec un langage biblique. Comment voulez-vous qu'on discute? Vous parlez avec un langage biblique.
Depuis quand ça existe, la Cisjordanie? Le terme de Cisjordanie existait
un langage biblique. Est-ce que vous avez un texte de droit international qui parle de Judée, Samarie?
Arrêtez de parler de droit international, parce que les Arabes n'ont jamais représenté le droit international. En 47, ils ont accepté l'État d'Israël. Mais je vous pose une question claire. Je vous pose une question claire, monsieur, parce que vous êtes un homme honnête.
Vous parlez que de religion et d'ethnie.
Est-ce qu'en 1947, attendez, je vais vous poser une question.
Je parle de droit international.
Alors, on va parler de droit international. En
1947,
alors vous voyez bien, c'est vraiment source religieuse contre droit international. Et je me pose quand même la question pourquoi, de manière assez régulière, les journalistes sont absents de ces débats-là. C'est-à-dire que c'est à l'invité, en l'occurrence, Begil Nabdi, de recadrer tout ça. Je me demande s'il n'y a pas une volonté de faire le buzz en se disant ça va clasher, j'attends, je n'interviens pas. J'ose espérer que ça ne soit pas ça, mais ça m'en laisse quand même fortement l'impression.
Alors maintenant, Jean-Yves, tu as constaté quelque chose d'intéressant, c'est que l'arrivée de Rima Hassan sur la liste de la France insoumise aux élections européennes en a dérangé plus d'un. Et j'ajouterais, moi, même Fabien Roussel était un peu gêné en disant comment, qu'est-ce que c'est ça. Alors donc, tu nous parleras aussi après du point de vue de la rectrice de l'Université de Liège en Belgique.
Voilà, donc en fait, il y a eu une interview de Rima Hassan. Donc Rima Hassan, c'est une Palestinienne activiste, franco-palestinienne même, et elle est juriste en droit international et elle a été intégrée dans la liste LFI pour les élections européennes. A priori, elle devrait pouvoir être en position éligible puisqu'elle est à 7e place. Et cette présence sur la liste de la France insoumise a attendu ses adversaires qui reprochaient déjà pas mal de choses depuis le 7 octobre à la France insoumise. Et le communiste Fabien Roussel juge que ce n'est pas une voie de paix. Je ne sais pas s'il fallait s'attendre à autre chose avec lui. Hein. Ce populiste, après on traite Mélenchon de populiste, mais je crois qu'il a trouvé son maître.
Lui, il a un peu d'avance sur tout le monde en populisme, ouais. Puisqu'il est Alliance, déjà. C'est le syndicat
des policiers
d'extrême droite de la police. Ça serait un peu l'OAS au pouvoir avec eux. En même temps, il a un peu d'avance parce qu'il est saucisson vin rouge. Donc voilà. Là, c'est imparable.
Il en a rajouté dans le... Donc, il y a aussi le chef des députés Renaissance trouve même que cette candidature drague l'électorat antisémite. C'est-à-dire, alors quand il parle d'électorat antisémite, il faut traduire, hein, il parle des musulmans, des beurs, tous les immigrés que l'on a accueillis depuis des années, parce qu'il part du principe que quand on est musulman, on a la haine des juifs, hein, ce qui ne s'est jamais vérifié. Alors, Rima Hassan, juriste spécialiste des migrations et activiste franco-palestinienne, elle a des positions sur le conflit israélo-palestinien très éloignées de celles généralement défendues sous l'attitude, on l'a assez souligné. Mais elle assure parler la langue du droit international et elle porte la voix des réfugiés oubliés. Donc ça, c'était pour Rima Hassan. Hein. Donc maintenant, si vous faites, vous savez, le 9 juin, pour qui voter,
hein, oui,
si vous ne saviez pas encore.
Mais, voilà. Mais c'est très, très bien parce que... finalement, on dit à la France insoumise que tout ça, c'est des opérations électorales, électoralistes même.
Oui, oui.
Mais quand arrive une élection, quand même, on pourrait reconnaître que le choix judicieux qui est là, parce qu'au fond, dire que c'est la Palestine, donc c'est pas l'Europe, alors qu'Israël est la pointe avancée de l'Occident au Moyen-Orient, je ne vois pas ce qu'il y a à redire à ça.
Non, mais c'est, Israël, ce n'est pas l'Europe, mais c'est des Européens qui l'ont créé. Et tout vient de là, en fait.
oui, mais
c'est la colonisation.
Quand ils participent au championnat européen de football, hein, ils ne brillent pas des masses, mais ça veut quand même dire qu'ils ont forcé un moment la main. en disant, nous, on est, vous savez d'où on vient de Pologne, on vient de, d'Europe de l'Est, on est des Européens, donc il faut nous accepter.
Mais c'est comme contre, pour, les, pour le, l'Eurovision, qu'est-ce qu'il
faut. Et voilà, et oui. Mmh. Et le chanteur de Gaza pourrait participer à l'Eurovision, moi je serais d'accord, ouais, je trouve que puisqu'il habite,
au,
il
même
habite
endroit.
Au même endroit, il pourrait participer à l'Eurovision, ouais. Et les équipes de football palestiniennes qui sont certainement meilleures que celles d'Israël pourraient aussi participer au championnat européen. Ouais. Alors maintenant, tu nous as nous causé de Anne-Sophie Nissen,
voilà.
Parce qu'elle a dit des choses intéressantes aussi.
Donc, c'est une rectrice de l'Université de Liège. Hein. Tout à l'heure, on a parlé d'un site belge. Et elle écrit « En tant que rectrice de l'U Liège, c'est l'Université de Liège, et dans la lignée de mon poste du 2 novembre 2023, dans lequel j'appelais à l'arrêt de la violence ainsi qu'à l'accès aux ressources vitales, aux soins et à l'aide humanitaire pour Gaza, je veux attirer l'attention sur la destruction du système éducatif palestinien. Effectivement, Israël ne se contente pas de détruire les personnes, il détruit aussi la société. » Il détruit donc l'éducation, les monuments, etc. Et j'ai vu un article, je suis tombé sur un article hier ou avant-hier, qui parlait également de tout un tas d'objets historiques qui avaient été trouvés à Gaza, dont certains ont été transférés à une certaine époque à Genève pour être rénovés. Et donc ça date du début des années 2000. Et puis, quand il y a eu le blocus de Gaza, Genève les a gardés. L'article disait, ben, peut-être c'est un mal pour un bien, puisque au moins ils ont été préservés de la destruction. Hein. Et donc, elle continue en disant, en 4 mois, des centaines d'universitaires et d'enseignants ont été tués, et elle parle d'au moins 95 professeurs et 3 présidents d'université. L'armée israélienne a détruit les principales bibliothèques de Gaza, des librairies, des maisons d'édition et des centaines d'autres institutions du savoir. 12 universités ont été dévastées. Après, Israël dit que ce sont des animaux à Gaza, mais c'est des animaux éduqués, si c'est le cas, parce que 12 universités dans ce petit coin de terre. Selon l'ONU, au début du mois de janvier, environ 75% des infrastructures éducatives de Gaza avaient été endommagées. 88 000 étudiants ont dû interrompre leur cursus. Devant l'ampleur de ces destructions systématiques des infrastructures éducatives, ce n'est pas possible de croire encore qu'il s'agit d'un effet collatéral de l'action de guerre menée contre le Hamas. Il s'agit clairement d'une action ciblée et intentionnelle visant à l'éradication de l'une des conditions de survie essentielles de la société gazaoui elle-même, la disponibilité d'une structure d'éducation. Une oui, femme courageuse.
C'est exactement ce que tu dis, c'est que comment éradiquer non pas des combattants, mais liquider une société. Alors, on va faire état de ce que tu as cité tout à l'heure, c'est-à-dire cet urgentiste encore à Gaza, Pascal André, il témoigne sur TRT France. Alors ça, je ne sais pas ce que c'est TRT France, mais bon, il dit ce qu'il a à dire, et très très bien.
Et c'est une chaîne turque.
Ah, c'est une chaîne turque.
Il me semble bien, oui.
Ah bon. Donc, c'est une chaîne turque ayant des correspondants en France. Oui. Enfin, ou un canal en France. Parce que ça donnait l'idée que ça se passait sur le territoire, quand même.
Il me semble bien que j'avais dit ça.
Bon, alors donc ce qui relève, comme tu l'as suggéré dans l'introduction, c'est l'intention génocidaire et du terrorisme d'État d'Israël envers les civils à Gaza. Donc on va écouter pendant 3 minutes 17 Pascal André nous parler de ce qu'il a vu à Gaza et de la haine qui fait partie du système israélien.
Il y a eu plus d'enfants et de femmes décédées en 5 mois qu'en 2 ans en Ukraine. Donc voilà la situation sur place avec des blessures absolument hallucinantes. Nous avons rejoint là-bas donc des équipes qui sont en rotation sur place depuis le 25 janvier. Non, nombre d'entre eux sont morts parce qu'à Gaza, on tire sur les soignants, on tire sur les ambulances, on tire sur les hôpitaux, comme vous le savez. Nous pouvons vraiment confirmer donc, le cahier des charges imposé donc, par la Cour internationale de justice le 26 janvier n'est pas respecté et que l'intention génocidaire, en tout cas nous l'avons constaté, est bien confirmée. Vous imaginez un métro aux heures de pointe avec des gens comme vous et moi et qui se reçoivent des bombes sans aucun espace où se protéger. C'est une nasse. Les collègues qui spécialisent la médecine, qui connaissent la médecine de guerre nous disent nous n'avons jamais vu un conflit comme ça où les gens n'ont aucune solution de sortie. C'est la première fois. Sur l'hôpital européen, il y avait 25 000 personnes tout autour de l'hôpital. Tous les couloirs étaient saturés comme un métro aux heures de pointe. Les conditions de traitement et d'accès aux soins étaient insupportables. La terreur est constante. Vraiment, le régime de terreur est constant et on peut vraiment s'interroger sur ce qui signifie aujourd'hui le mot terroriste et l'action terroriste d'un État à l'égard d'une population civile sans armes. C'est insupportable. Nous, il nous a fallu 3 semaines pour nous séparer de ces bruits. Eux continuent à vivre avec, et quand c'est pas les drones, bien entendu, ce sont les bombardements. Quand les soignants là-bas nous disent « rentre chez toi » parce que si on vit ça depuis 78 ans, c'est parce que vous, Européens et vous, Américains, cautionnez une situation puis une application du non-droit international. Rentrez chez vous pour faire prendre conscience aux citoyens que nous sommes les mêmes qu'eux, que nous ne sommes pas des animaux, que nous sommes des humains. Osons discuter avec des personnes qui n'ont pensent pas comme nous, qui n'ont pas d'autre narratif que celui qui est distillé depuis des mois et des mois par une puissance qui est une puissance coloniale et qui contrôle aussi les médias. Il est temps que ça s'arrête immédiatement. Immédiatement. Et c'est un discours de soignant, c'est prendre soin de l'humanité que de dire ça. Je peux vous témoigner tout ce que j'ai vu comme infectiologue et comme urgentiste, mais en deux mots, je vous dirais c'est infect et c'est urgent. L'autre jour, j'ai soigné un enfant qui avait une blessure de 12 ans, qui avait une blessure d'au moins 15 cm de la boîte crânienne sur un éclat d'obus. Il y en avait deux autour d'elle qui gémissaient, il y en avait un qui venait de mourir. J'avais accueilli 3 enfants morts sur la demi-heure qui précédait. J'ai dû chercher pendant une demi-heure un anesthésique, une pince. J'ai passé quasiment 3/4 d'heure, 1 heure à faire une suture que j'aurais pu faire en 1/4 d'heure tellement le matériel était défectueux. L'aide est là, à quelques kilomètres. Elle est entassée dans des camions qui ne passent pas. Les denrées alimentaires pourrissent, les médicaments sont là, alors que les médicaments, les patients qui en ont besoin sont à quelques centaines de mètres ou à quelques kilomètres. Ça ne sert à rien de faire de la communication, d'envoyer dans les airs, d'envoyer par mer. Alors que tout est là et simplement Israël et les États-Unis empêchent l'entrée. Parce que je suis blanc, parce que j'ai un prénom chrétien, mes collègues arabes, médecins comme moi, souvent bien plus compétents que moi, me disent « parle, parle à notre place, toi tu seras entendu ». C'est quoi cette démocratie? Où sont liberté, égalité, fraternité?
Alors oui Jean-Yves, tu as découvert encore des informations monstrueuses. C'est que on s'aperçoit que tuer pour le plaisir fait partie des refrains de l'armée israélienne quand même.
Oui, c'est un peu ce que tu disais aussi. Ces gens-là, quand ils vont revenir chez eux, ils vont avoir une trace indélébile, c'est-à-dire que c'est des tueurs, quoi, et des tueurs par plaisir. Quand on voit comment ils prennent plaisir à désinguer des femmes, des enfants, des hôpitaux, qu'ils ont laissé l'hôpital Al-Shifa dans un état lamentable, avec des cadavres, tout un tas de cadavres à l'intérieur. Et donc, c'est sur Chronique de Palestine, donc un article qui s'intitule « Tuer par pur plaisir, la dépravation israélienne n'a aucune limite ». Et en fait, il y a plusieurs frappes de drones israéliens qui ont visé et tué un groupe de jeunes hommes à Khan Younis. Et bien entendu, ça a suscité une indignation générale. L'attaque a eu lieu, a priori, début février. Et il y a une vidéo qui a circulé sur les réseaux sociaux après avoir été obtenue et publiée par Al Jazeera Arabic. La vidéo montre 4 jeunes hommes de Khan Younis qui se rendent à leur domicile dans le quartier d'Al-Sika. Les garçons marchent parmi les décombres le long d'une route qui a été détruite au bulldozer par des véhicules blindés israéliens. Al Jazeera a rapporté que, malgré le retrait des véhicules, les forces israéliennes ont continué à espionner les Palestiniens à l'aide de drones. Et le groupe poursuit sa marche et les images montrent un missile qui les frappe soudainement, tuant immédiatement au moins 2 d'entre eux. Donc il y a des images qui montrent les corps des victimes déchiquetés. Quelques instants plus tard, l'un des jeunes hommes survivants s'enfuit en courant et des missiles israéliens, de nouveaux missiles, frappent les deux autres hommes, les tuant également. Les images vidéo montrent clairement que le groupe n'était pas armé et ne représentait aucune menace ni aucun danger pour qui que ce soit. Mais des cas comme ça, il y en a eu des dizaines. Donc, j'ai lu une fois un truc qui parlait donc d'une femme et sa fille qui se rendaient à l'hôpital et elles se sont fait tirer dessus alors qu'elles marchaient et en plus dans le dos. Hein.
Profonde, profonde. Voilà. Chers amis, on se dit bonsoir. Au revoir Jean-Yves. Et on se retrouve le mois prochain pour une autre revue de presse internationale. Merci à tous. Au revoir. Bintish Shalabi.